Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Et le message sera basé principalement sur un verset. Alors, le message ne sera pas très très long, mais j'espère qu'il touchera votre cœur, tout comme Dieu l'a utilisé pour toucher le mien. Matthieu, chapitre 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Prions. Oui, Seigneur, nous te remettons ces moments que nous passons dans ta parole, que tu ouvres notre intelligence, que tu nous éclaires, que tu nous donnes de comprendre ce que tu as pour nous. Et Seigneur, par ta grâce, que tu nous aides à grandir en toi, dans notre compréhension de ta personne, de ce que tu attends de nous, et aussi que nous puissions grandir dans notre obéissance, dans notre engagement pour toi. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Vous êtes-vous jamais posé la question, mais l'Église, c'est quoi? L'Église, on en parle tellement, on les voit tout autour de nous, n'est-ce pas? Il n'y a pratiquement pas du tout un village en France qui n'a pas sa propre église. Enfin, entre guillemets, et église. Vous allez dans n'importe quel village, aussi petit soit-il, ben, il y a deux choses que ce village va avoir. La première, c'est une boulangerie. Et la deuxième, c'est une église, n'est-ce pas? Les deux choses essentielles pour les Français. Non, je plaisante un peu, mais il est vrai que même jusque dans les plus petits villages, ils n'auront pas grand-chose d'autre, mais il y aura une église. Ou, on peut dire plus exactement, un bâtiment. Mais cela nous emmène à nous poser la question, mais qu'est-ce que c'est l'église? Parce qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes l'église. Vous êtes venus à l'église ce matin. On va dire, mais vous êtes l'église. Mais réellement, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous sortons dans la rue et on parle avec les gens de tous les jours, bah, on leur dit, voici l'église. Bah, qu'est-ce qui va venir dans leur esprit? Sûrement un bâtiment. Ou peut-être une autre idée un peu bizarre. Mais nous, dans notre esprit, lorsque nous évoquons le mot église, qu'est-ce que nous avons dans notre esprit? Est-ce que c'est simplement la salle, le lieu de rencontre où nous sommes? Est-ce que c'est tout simplement une idée un peu floue que, voilà, Dieu met en place l'Église, les chrétiens sont quelque part l'Église, mais on ne comprend pas trop exactement comment ça se fait? Et il faut se poser cette question. Parce que ici, Jésus va dire quelque chose de très important. Et d'ailleurs, dans ce chapitre 18, et puis dans le chapitre 16, ici, verset 18, et puis de nouveau dans le chapitre 18, Jésus va employer ce mot « église », et ce sont les deux seules fois dans tous les évangiles qu'il va le faire. C'est assez impressionnant. Plus d'une centaine de fois, on va voir le mot « église » dans le Nouveau Testament, mais deux fois seulement dans les évangiles. Alors déjà, ça nous met un peu sur la piste de ce que nous voulons parler. Mais comme j'ai dit, on va se focaliser sur ce verset 18. Et revenez avec moi dans ce verset où Jésus, en réponse à quelque chose que Pierre lui a dit, quelques versets plus tôt, Jésus avait posé une question, mais qui disent que les hommes, bah, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qui disent que je suis? Qui suis-je au dire des hommes? Verset 13. Et puis, il commence à donner toutes sortes de réponses. Pierre, lui, inspiré par Dieu, bien sûr, « Tu es le Christ », verset 16, « Le Fils du Dieu vivant ». Et c'est en fait suite à cela que Jésus va dire à Pierre, bah, « Tu m'as appelé le Christ, le Fils du Dieu vivant, okay, mais toi, Pierre. Oui, tu es Pierre. Sur ce roc, pas sur Pierre. Pas sur Pierre, mais sur Christ lui-même. Pas sur le petit caillou, mais sur le fondement, la fondation. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et cette petite phrase, sur ce roc, je bâtirai mon église, a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des courants du christianisme dans le sens plus large qui disent et qui croient que, ici, Jésus établit l'église sur Pierre, sur le personnage de Pierre. C'est faux. Et cela a emmené beaucoup dans l'erreur. Mais ici, Jésus est en train de faire la distinction entre la déclaration de Pierre, cette déclaration de foi. Oui, Christ est le Messie, il est celui envoyé par Dieu, il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et Jésus dit, sur cela, je vais faire quelque chose. À partir de cette déclaration, par la foi, je vais faire quelque chose. Et Jésus dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et le premier élément que nous voyons dans ce verset, c'est que l'église appartient à Dieu. Il dit, je bâtirai non pas l'église en général, même s'il est en train de le faire, mais il dit, je bâtirai mon église. Et qu'est-ce que je suis content que Jésus explique très clairement que l'église lui appartient. L'église ne m'appartient pas. Heureusement, je ne pourrai jamais en prendre soin. Dieu m'a confié cette assemblée ici à Vernon. Mais m'occuper de toute l'église dans le monde, ce n'est pas possible. Ni pour moi, ni pour vous d'ailleurs. Qui est le seul qui puisse s'en occuper convenablement? C'est le Tout-Puissant. C'est Dieu lui-même. Et Jésus dit, je bâtirai mon église. L'église lui appartient. Cette assemblée, parce que littéralement le mot, et c'est le mot en grec « ecclésia », nous avons notre église, notre mot « église » qui vient de là, cette assemblée qui est là, c'est Dieu qui en prend soin. Ce n'est pas l'église d'un tel ou tel, ce n'est pas l'église d'un groupe, ou de telle ou telle confession, bien sûr, nous nous regroupons autour d'une confession de foi, nous nous regroupons autour d'une liste de croyances, et cela est convenable. Mais l'Église, elle appartient à Dieu. Et cette assemblée de personnes sauvées par la foi, c'est Dieu qui s'en occupe. Et cette assemblée appartient à Dieu. Ce qui fait que notre assemblée locale ici à Vernon appartient à Dieu. Et moi, en tant que pasteur, j'aurai à répondre devant Dieu pour ce que j'aurai fait ici à l'Église. Mais attention, chaque membre de l'Église aura à répondre devant Dieu pour le travail qu'il aura fait. Et ce n'est pas à moi que vous allez devoir rendre compte. Bien sûr, par la grâce de Dieu, je vais encourager chacun à s'impliquer et à s'engager et à obéir au plus haut degré. Mais ce n'est pas à moi que vous allez rendre compte. Vous, tout comme moi, nous allons rendre compte à Dieu. Paul l'explique bien dans la première épître aux Corinthiens, nous comparaîtrons tous et tous les personnes sauvées devant le tribunal de Christ, pour répondre devant Dieu pour ce que nous avons fait de notre vie. Et cela doit inspirer à la fois la joie, on sera dans la présence de Dieu, mais aussi peut-être un peu de crainte, un peu de honte. Qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie dans cette église qui appartient à Dieu? Jésus dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas l'église des autres, mais c'est mon église. Et lorsque quelque chose nous appartient, on en est fier. On le tient plus près de nous, n'est-ce pas? Un objet qui m'appartient, je vais en prendre soin plus qu'un objet qui appartient à quelqu'un d'autre. Un objet qui appartient à quelqu'un d'autre, j'espère que personne n'irait volontairement le casser ou faire du mal. Mais ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais quelque chose qui m'appartient à moi, quelque chose pour lequel moi j'ai dépensé de l'argent, sera beaucoup plus précieux pour moi. Et Jésus-Christ a donné sa vie pour l'Église. Alors, à votre avis, l'Église lui est-elle précieuse? Bien sûr. Et quand il parle de mon Église, c'est l'Église qu'il a rachetée avec son propre sang. Et cette assemblée de personnes sauvées, c'est-à-dire des personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour le salut, à un moment donné, cette assemblée appartient à Dieu. Et la seule façon d'appartenir à Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Si on n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, on n'appartient pas à Dieu. On ne fait pas partie de l'Église. On peut venir dans un bâtiment, on peut adhérer à un ensemble de croyances, on peut côtoyer des personnes qui sont dans l'Église. Mais si on n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, on ne fait pas partie de l'Église. Jésus dit ici, je bâtirai mon Église. Cette Église lui est précieuse. Et si l'Église est précieuse aux yeux de Jésus-Christ, ne croyez-vous pas que l'Église doit être précieuse à nos yeux aussi? Puisque c'est l'Église de Dieu et non pas l'Église d'un tel ou tel. On l'appelle Église de Vernon, parce que nous nous situons à Vernon. Mais est-ce que cette Église, elle est importante parce qu'elle se situe à Vernon? Pas forcément. Est-ce que cette Église est précieuse et spéciale à cause des gens qui la composent? Oui, en quelque sorte. Mais cette Église est spéciale et importante parce qu'elle appartient à Dieu. Et est-ce que nous avons cette optique? Nous venons le dimanche matin. Et est-ce que nous avons dans notre esprit, je vais à l'endroit où nous rencontrons Dieu, où l'Église, le corps de Christ, comme Paul va l'appeler dans l'Épître aux Éphésiens, le corps de Christ se réunit. Est-ce que nous avons cette optique? Parce que Jésus dit, je bâtirai mon Église. Nous venons pour Dieu. Nous sommes là pour Dieu. Et bien sûr, les autres bénéficient de notre présence et des exhortations que nous pouvons apporter. Et nous bénéficions de la présence des autres et de ce que eux, ils peuvent nous apporter. Mais premièrement, l'Église, c'est Dieu. C'est son Église. Et puisque c'est l'Église de Dieu, négliger l'Église revient à négliger Dieu. Vous y avez déjà pensé? Négliger le rassemblement de frères et sœurs en Christ revient à négliger Dieu. Parce que Jésus dit, c'est mon Église. On ne veut pas de l'Église, on est en train de dire, on ne veut pas de Dieu. Par contre, si nous disons, je veux de Dieu, je dois automatiquement dire, oui, je veux de son Église aussi. Et son Église, toutes ces personnes, aussi imparfaites soient-elles, parce que nul ici n'est parfait, on doit se réunir. Et voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux a exhorté, a commandé de ne pas négliger le rassemblement. Nous devons nous réunir, non pas pour nous, premièrement. Nous sommes encouragés, il y a des bénéfices pour nous, bien sûr, mais premièrement parce que c'est l'Église de Dieu. L'Église de Christ, c'est son Église. Et quel encouragement, comme j'ai dit, ce n'est pas l'Église d'un tel. N'importe qui peut nous décevoir. Et à un moment donné, si on attend assez longtemps, tous vont nous décevoir. Jésus-Christ ne nous décevra jamais. Et ici, lorsque nous avons cette optique que Dieu, Jésus-Christ, bâtit son Église, c'est son Église, alors je veux me mettre avec lui. Et tous ceux qui, eux aussi, veulent se mettre avec Jésus-Christ. Mais aussi, vous l'avez relevé dans ce verset, Jésus dit, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Et autant l'Église appartient à Jésus-Christ et cela doit nous encourager, qu'est-ce que je suis content que c'est le cas, ici dans ce verset, nous voyons que c'est Jésus qui s'occupe de la construction de l'Église. Et construction non pas dans le sens physique d'un bâtiment. Dieu nous a donné ce bâtiment et gloire à Dieu pour cela. Il faut le louer pour cet endroit qu'il nous a donné pour nous réunir. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons ici. Quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », Jésus dit qu'il sera à l'œuvre pour toucher le cœur des inconvertis pour qu'ils se convertissent. Parce que comment l'Église grandit-elle ? En écartant ses murs, en achetant un terrain supplémentaire, en construisant un plus grand bâtiment. Non. L'Église grandit lorsqu'il y a des inconvertis qui se rendent compte de leurs péchés, qui se rendent compte que Jésus-Christ est le seul sauveur et que, humblement, ils se mettent à genoux et demandent pardon à Dieu. Ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur. C'est la seule façon de faire grandir l'Église. Et ici, Jésus dit, je bâtirai. Et bien sûr, à la fin de cet évangile, il va donner cette mission d'aller évangéliser, faire des disciples. Mais qui travaille le cœur ? C'est Jésus. Nous pouvons avoir les meilleurs arguments au monde. Je peux présenter toutes les données, logiques, scientifiques, tout ce qu'on veut. Si Dieu ne touche pas le cœur de quelqu'un, cette personne ne se convertira pas. Et ici, Jésus dit, je bâtirai mon Église. Nous avons une œuvre à faire. Ce n'est pas que nous sommes totalement inactifs, ce n'est pas comme nous n'avons rien à faire. Et que tout le travail, c'est du côté de Dieu, on vient, on fait acte de présence et puis c'est tout. Non. Il y a un travail pour nous d'accomplir. Paul, il va expliquer notre travail comme collaborer avec Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu, il va dire aux Corinthiens. Et Pierre, lui, il va dire dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, il va parler d'un édifice, des pierres vivantes. Et ça, ce sont les chrétiens, les gens sauvés par la foi. Et c'est Dieu qui est en train de faire cela. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Mais la question se pose à nous, et spécifiquement à notre Église ici à Vernon. Et je dois me poser cette question en tant que pasteur, responsable spirituel ici, mais chaque personne sauvée, chaque enfant de Dieu dans l'Église doit se poser cette question, mais est-ce que l'Église dans laquelle je suis est en train de grandir ? Est-ce que nous avons plus de gens sauvés dans l'Église aujourd'hui qu'il y a un an ? Ou il y a 2 ans, ou il y a 5 ans, 10 ans. Et si la réponse à cela est non, nous devons nous poser cette autre question, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que Dieu ne veut pas sauver ? Non. Dieu veut que tous les hommes viennent à la repentance. Et ici, Jésus promet de bâtir son Église. Alors, si notre Église n'est pas en train de grandir parce qu'il y a de nouvelles personnes qui se convertissent, je vous soumets que peut-être le problème, c'est que nous n'évangélisons pas assez. Nous ne faisons pas des disciples en obéissance à ce commandement de Jésus. Et vous allez dire, mais Robert, on a nos efforts d'évangélisation tous les mois. L'Église évangélise. Oui, mais combien sommes-nous pour les efforts d'évangélisation ? Nous sommes souvent 3, 4, 5. Nous sommes heureux lorsque nous sommes 6 ou 7. Et je loue Dieu pour la fidélité de ceux qui viennent mois après mois. Mais nous voyons que, même avec cela, ben, très peu de résultats. Et nos échanges de tous les jours, des collègues de travail, les membres de la famille, les gens dans le quartier. Est-ce que nous sommes systématiquement en train d'évangéliser et d'appeler des gens à la repentance, pas une religion bien sûr, mais à la repentance. Et nous devons nous poser la question, puisque Jésus a promis de bâtir son Église, et ici à Vernon, nous sommes une manifestation de cette Église que Jésus est en train de bâtir, mais si notre Église ne grandit pas, où est le problème? Bien sûr, pas du côté de Dieu. Est-il possible que tous ne font pas ce qu'il faut au niveau de l'évangélisation? C'est une question à se poser. Mais en même temps, quel réconfort, quelle assurance que Jésus promet de bâtir. Je bâtirai. Et l'idée, c'est il va commencer, et cela a commencé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend et l'Église commence à ce moment-là et l'Église continue. Jésus ne dira jamais « j'en ai marre ». Les chrétiens ne grandissent pas, les chrétiens n'avancent pas dans le témoignage, dans l'obéissance. Là, je leur ai donné tout ce qu'il fallait, mais depuis toutes ces années, ils n'avancent pas. Il n'y a pas de progrès, alors j'en ai marre, je les laisse, et puis voilà. Bien sûr que non. Ici, Jésus promet de bâtir jusqu'à la fin son Église. Jésus n'arrêtera jamais de bâtir son Église. Parfois, nous pouvons un peu baisser les bras. Parfois, nous devenons découragés si nous sommes honnêtes, n'est-ce pas? Mais Jésus promet... Je bâtirai mon Église. Il est à l'œuvre. Jésus n'est jamais passif. Jésus est à l'œuvre. Et Jésus est à l'œuvre ici, aujourd'hui. Jésus est à l'œuvre dans votre cœur et dans le mien. Et Jésus veut voir grandir cette Église. Son plan, son désir, c'est que cette Église grandisse. Qu'il y ait plus d'inconvertis qui se convertissent et qui s'ajoutent à l'Église. Actes chapitre 2. Suite à la prédication de Pierre à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Des milliers de personnes se convertissent. Puis un peu plus tard, on parle de 5000 qui se convertissent. Et on dit, ouais, mais c'était l'époque des apôtres. Aujourd'hui, 21e siècle, les choses ont changé. La France, elle est dure, les Français sont indifférents, sont sûrs d'eux-mêmes, sont arrogants, ne croient pas qu'ils ont besoin de quoi que ce soit. Oui, et est-ce que Dieu a changé? Dieu ne veut-il pas les sauver? Dieu ne veut-il pas que nous fassions tout dans notre pouvoir pour les appeler à la repentance? Jésus est en train de bâtir son Église. Que faisons-nous? Concrètement, que faisons-nous, Église de Vernon, pour bâtir, pour aider dans cette construction de l'Église? La première chose, c'est si nous ne sommes pas sauvés, nous ne faisons pas partie de l'Église. On vient peut-être dans un bâtiment, on côtoie des gens bien sympas, mais on ne fait pas partie de l'Église. On n'est pas enfant de Dieu si on n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et la première chose, si on veut aider à la construction de cette Église, c'est de s'assurer qu'on est sauvé. Mais une fois qu'on est sauvé, est-ce que nous sommes à l'œuvre pour édifier, solidifier, nous encourager les uns des autres? Est-ce que nous sommes à l'œuvre dans l'évangélisation dimanche prochain? Il y aura l'occasion. Est-ce qu'on est déjà en train de prier pour qu'il fasse beau? Est-ce qu'on est déjà en train de prier pour que Dieu prépare le cœur de ceux qui vont recevoir les traités que nous allons distribuer? Est-ce que nous prenons déjà la décision dans notre cœur, j'y serai? Que la seule chose qui pourrait m'empêcher d'y aller serait que je me trouve à l'hôpital avec une jambe cassée et c'est pas possible que je fasse autre chose. Mais je prends la décision aujourd'hui, je vais participer à cet effort d'évangélisation. Peut-être que ce sera la première fois, peut-être on aura peur. Je ne vous cache pas que aller parler avec quelqu'un du salut, à l'étendre un traité et puis commencer à expliquer que nous sommes des enfants de Dieu, nous présentons la parole. Je ne vous cache pas que parfois, on a peur. Parfois, j'ai peur. Ce n'est pas facile. Mais cela fait partie de cette construction de l'Église. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Dieu a donné cette mission à ses enfants. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? Comme Paul dit dans l'Épître aux Romains chapitre 10, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, l'Église, l'Église appartient à Dieu. Elle n'appartient pas à une personne ou à un groupe en particulier. Elle appartient à Dieu. Et à cause de cela, elle est précieuse. Mais aussi, l'Église est quelque chose que Jésus est en train de bâtir. C'est Jésus qu'il construit et nous œuvrons avec lui. Mais c'est lui qui en est l'architecte. Et puis, à la fin de verset 18, l'Église réussira. À la fin de verset 18, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église réussira. On n'a pas le temps ce matin d'entrer dans tous les détails de l'explication de ce fin de verset. Cette fin de verset aussi a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de choses ont été écrites et dites là-dessus. Mais l'Église réussira. Dieu s'assurera que rien n'arrêtera l'Église. Certes, peut-être dans certains coins, on dirait que l'Église n'y est plus, qu'il n'y a pas du tout de gens sauvés. Et c'est peut-être le cas. Mais partout dans le monde, nous voyons que les chrétiens, c'est-à-dire des personnes sauvées par grâce, avancent. Et qu'il y a des gens qui se convertissent, même dans les contextes les plus difficiles. Et ici, Jésus promet que l'Église réussira. Et lorsque Jésus assure la réussite, qu'est-ce qui pourrait empêcher cela? Rien au monde. Lorsque nous voyons ce petit verset, cela doit nous faire réfléchir, cela doit nous arrêter, cela doit nous faire nous remettre en question. Parce que nous avons une conception de l'Église. On dit Église, on pense bâtiment, on pense local, on pense un endroit. Mais l'Église est bien plus que cela. L'Église est toute personne qui a accepté Jésus-Christ par la foi. Et on ne peut entrer dans l'Église que par ce moyen. Alors, c'est le point de départ, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et toute personne qui a accepté Jésus-Christ par la foi fait partie de l'Église, ce qu'on appelle parfois l'Église universelle. Et puis, aujourd'hui, ici à Vernon, nous avons une expression visible, tangible, de l'Église locale. Mais cela ne veut pas dire que toute personne ici, dans cette salle, ce matin, soit sauvée. Vous êtes dans le bâtiment de l'église de Vernon. Mais peut-être il y a des gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, qui ne font pas partie de l'église. Je prie que tous le soient. J'aimerais avoir cette certitude. Mais l'église, ce sont des personnes sauvées par grâce. Et parce que chaque personne sauvée par grâce fait partie de l'Église, nous n'avons pas le droit de minimiser, de mettre de côté, de faire du mal ou autre, préférer une partie de l'Église à une autre. Cette Église appartient à Dieu. Jésus-Christ plus exactement, et non pas à nous ou quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui s'en occupe et il nous demande de travailler avec lui. Alors, allez avec moi dans ce passage, dans la première épître de Pierre. On terminera avec ces versets. La première épître de Pierre, chapitre 2. La première épître de Pierre, chapitre 2, dans les quelques premiers versets, il encourage ces chrétiens à la maturité spirituelle. Et au verset 4, Pierre va dire ceci, et souvenons-nous, c'est à Pierre que Jésus s'adressait dans Matthieu chapitre 16. Et il a sûrement ces paroles encore dans son esprit, où il dit au verset 4, « Approchez-vous de lui ». Il parle de Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le monde ne comprend pas du tout ce que Dieu est en train de faire. Le monde rejette l'œuvre de Dieu, mais nous, nous continuons. Et au verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous un édifice, un bâtiment. » Une construction, c'est ce que Dieu est en train de faire. Chacun de nous étant une pierre dans cet édifice. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On a ce bâtiment ici. On a cette, entre guillemets, maison qui est ici. Et il faut en prendre soin. On voit un ensemble de choses qui doivent être corrigées. Juste hier, on parlait du portail, il y a la cour qui doit être refaite, les doubles vitrages qui doivent être faits, un ensemble de choses, le toit. Et puis, on constate, ça ne va pas trop bien. Il y a des améliorations, il y a des travaux qui doivent être faits. Et ici, Paul parle de l'Église en tant que maison spirituelle. Et le soin que nous prenons de notre maison physique, on nettoie, on répare, on améliore. Est-ce que nous sommes en train de prendre autant soin de la maison spirituelle qui sont les frères et sœurs en Christ? Et comme Pierre dit ici, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Est-ce que je participe à cette édification? Est-ce que ce que je dis, est-ce que mon attitude, est-ce que mes gestes participent à édifier quelqu'un, c'est-à-dire à l'élever, l'encourager, lui faire du bien? Ou est-ce que je suis en train de détruire? Pierre dit ici, nous sommes ces pierres vivantes dans la maison de Dieu que Dieu est en train de construire. Et notre devoir, c'est de nous édifier les uns les autres. Et puis, il dit, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui puisse nous aider à le faire. Et nous pouvons apporter autant d'offrandes physiques, matérielles que nous voulons, si cela ne vient pas d'un cœur d'humilité, un cœur qui est agréable à Dieu, un cœur qui est prêt à se sacrifier pour Dieu, cela ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, cela ne vaut rien. Ce que Dieu veut tout d'abord, c'est que notre cœur soit prêt à le servir, prêt à lui donner la première place. Et c'est par Jésus-Christ que nous allons pouvoir offrir ces sacrifices, quand il parle de victimes spirituelles, il parle de sacrifices agréables à Dieu. Et on ne peut pas le faire à votre place. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Vous ne pouvez pas le faire à ma place. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de participer à l'édification de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de témoigner. Jésus est à l'œuvre en train de bâtir son Église. Il a promis, il le fait. Il est toujours fidèle à ses promesses. Et peut-être à un moment donné, nous nous sommes engagés pour participer dans l'Église, pour évangéliser, pour faire un ensemble de choses. Et peut-être notre engagement s'est estompé. Peut-être notre engagement était réduit. Et peut-être aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler cet engagement. Est-ce que nous pouvons faire plus pour Dieu et pour nos frères et sœurs? Je pense que oui. La parole de Dieu nous dit, il faut se donner les uns aux autres. Il faut s'édifier les uns les autres. Et si on laisse tout le travail à quelqu'un d'autre, nous sommes en train de minimiser les dons que Dieu nous a donnés, et le travail ne sera pas fait comme Dieu aurait voulu qu'il soit fait. Nous nous privons de bénédictions. Alors, lorsque nous pensons à l'Église, pensons à ces textes, pensons que c'est quelque chose qui est précieux à Dieu et alors qui doit être précieux pour nous. Ne négligeons pas l'Église parce que ça revient à négliger Dieu. Les deux vont ensemble. Renouvelons notre engagement pour faire du bien à l'Église. Renouvelons notre engagement pour voir l'Église grandir et faisons tout dans notre pouvoir, tout ce que Dieu nous a donné, de travailler avec Dieu pour faire grandir cette Église. Sommes-nous prêts à faire cela? Je prie que chacun ici déjà fasse partie de l'Église, c'est-à-dire ait accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et si c'est le cas, je prie que chacun, et moi le premier, que nous puissions nous encourager, nous édifier dans cette maison spirituelle, dans l'Église, pour Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons que tu as mis en place l'Église. Merci qu'elle vient de toi. Ce n'est pas l'invention de l'homme, mais elle est cet édifice spirituel. C'est quelque chose que tu fais dans notre cœur. Et Seigneur, merci que tu en prends soin. Merci que tu en es l'architecte, le constructeur principal. Et Seigneur, pardonne notre tiédeur, pardonne notre manque d'engagement. Que tu renouvelles notre zèle, Seigneur. Que tu fasses grandir cette Église à travers nous. Que nous soyons fidèles dans l'évangélisation, que nous soyons fidèles dans le témoignage. Nous savons que tu veux voir ton Église grandir et tu fais tout. Grandir et tu fais tout pour le faire. Aide-nous à travailler avec toi, pour toi. Et Seigneur, que tu reçois toute l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras en nous et aussi à travers nous. En ton nom, nous prions. Amen.